Je ne vais pas longuement présenter Angela Pontrandolfo devant des gens qui, dont la majorité la connaissent, la connaît. Je voudrais juste rappeler, pour ceux qui ne sauraient pas, qu'elle est professeure à l'Université de Salerne, en archéologie et histoire de l'art grec et romain, et qu'elle a reçu pour 2 ans une chaire internationale de recherche Blaise Pascal. Ce sont des chaires qui sont financées par toute une série d'institutions et de corps politiques, la région de France, etc., et qui récompensent un certain nombre de chercheurs tous les ans, si vous voulez, pour leur excellence scientifique. Et c'est un petit exploit d'avoir Angela parmi nous dans cette fonction, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, sur les 5 titulaires annuels, 5 sont en général, viennent des sciences naturelles. Donc, avoir les sciences humaines est un petit exploit, et nous sommes très fiers que cette demande ait abouti. Nous étions décidés à la présenter à plusieurs parce qu'il nous semblait qu'il fallait maintenir, raviver, développer les vieilles relations que les chercheurs dans le domaine de l'histoire de l'art et de l'archéologie ont avec la région de Salerne et de Naples, et je crois que c'est réussi. Vous avez peut-être suivi ces cycles de conférences qu'elle a fait et qui ont eu lieu essentiellement à l'INHA, je crois, à l'Institut National d'Histoire de l'Art. Et aujourd'hui, vous assistez à ce qui s'appelle la conférence finale qui doit avoir lieu dans un lieu un peu plus public que les centres de recherche, et c'est pour cela que nous l'avons organisé au collège. Et après cette conférence, il y aura au sous-sol, au foyer, un pot qui est offert pour saluer et conclure l'événement. Vous avez vu que le sujet porte sur le rôle des femmes dans la société italiote du 6e au 3e siècle avant notre ère. Il y aura des documents et des images.
Ah oui,
et nous réjouissons d'avance de l'entendre. Angela.
Merci. C'est Angela ici. Merci à John Scheid et merci au Collège de France qui m'a offert la possibilité d'être à Paris pour une année et pour travailler avec les collègues français. Et pour moi, c'était très important d'être ici pour vous présenter aujourd'hui des réflexions qui sont liées au travail que j'ai conduit dans toutes les années que j'ai travaillé dans l'Italie méridionale. Et aujourd'hui, je vous propose de parler du rôle des femmes dans la société italiote, parce que je crois qu'il faut réfléchir encore sur une problématique qui aujourd'hui c'était encore très important pour les femmes qui travaillent en Italie méridionale. Et au cours des dernières décennies, la condition féminine dans les sociétés antiques a suscité un intérêt grandissant chez de nombreux chercheurs, dont l'attention s'est notamment portée sur les indices que les sources écrites pouvaient fournir. En ce qui concerne certains territoires, comme l'Italie méridionale, que c'est l'objet de notre attention, les lacunes d'une tradition écrite, plutôt avare d'indications sur le rôle de la femme dans les communautés grecques comme dans les communautés indigènes, sont suppléées par une documentation archéologique qui permet de soulever un coin de voile sur l'univers féminin. Il s'agit, dans la plupart des cas, des témoignages que nous offre le mobilier trouvé dans de nombreuses sépultures connues, des cités grecques ou des centres indigènes, de fresques ornant les parois antérieures des tombes, de l'ère campanienne ou lucanienne, et dessins peints sur bon nombre de vases à figures rouges produits dans les ateliers Italiotte. Bien que nous sachions que ces documents nous restituent presque exclusivement une image de femmes de condition élevée, il nous est possible, grâce à eux, d'en circonscrire quelques aspects s'échelonnant de l'époque archaïque à l'époque hellénistique. Dans le mobilier des sépultures féminines, les ornements constituent le fil conducteur. Dans cette image, vous voyez la condition où les archéologues italiennes fouillent les tombes, où on trouve des sinumés qu'on a autre au mobilier funéraire, les vases, les objets en bronze. Aussi, on a des choses en bronze sur tout le corps de l'inhumé. Et c'était un travail très difficile pour le récupérer et pour voir qu'est-ce qu'on restitue pour comprendre quels étaient les vêtements des femmes. Ces ornements dans les tombes, le signe distinctif des sexes, mais surtout le reflet du rôle social de la défunte dans la communauté d'appartenance. De la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ et pendant toute la période archaïque, le mobilier des femmes de haut rang se distingue par des parures très élaborées aux riches ornementations en pâte de verre, en argent, en or, dont la provenance n'est pas seulement locale, mais également de la Méditerranée orientale, et souvent augmentée de breloques d'ambre, ouvrages d'artisans de la zone étrusque de la plaine du Pô. Vous voyez à gauche comment on a retrouvé les objets dans la tombe, et à droite, vous voyez l'objet qu'il est à la ceinture de la femme. Ça, c'était en bronze, c'était en ceinture. Mais je vous montre encore des autres exemplaires. La fibule. Comment marche ça? Comment on fait, s'il vous plaît? Ah oui. C'est ici. Ah, de l'autre côté. Ça. C'est le même qu'on a trouvé. Ces ornements sont constitués de fibules de différentes sortes, de bracelets, de boucles d'oreilles, de colliers, dont les combinaisons varient selon les nécropoles des groupes indigènes installés dans les différentes localités. Mais ce sont surtout les vêtements particulièrement luxueux qui souligne l'appartenance de la défunte à un groupe aristocratique. Vous voyez à gauche, à droite, des exemplaires qui viennent des communautés bien distinguibles. Et je crois qu'il faut travailler encore pour comprendre quelle est la différence entre les communautés et quel est le rôle des femmes à l'intérieur de cette communauté. Ils sont des femmes aristocratiques, mais ils changent d'un coin à l'autre. Encore, vous voyez les ornements, les bouts d'oreilles, les colliers, les ceintures. Mais ce sont surtout les vêtements particulièrement luxueux qui soulignent l'appartenance de la défunte à un groupe aristocratique. Les vêtements et le voile sur la tête sont ornés de boucles et boutons de bronze. Les ceintures sont brodées de milliers de perles d'ambre, d'ivoire, de pâtes de verre et de bronze, enrichies de falaires et de chaînettes pendantes, souvent agrémentées de perles tubulaires en spirale ou de plaques zoomorphes. Les pendants qui garnissent le bord de l'habit sont parfois d'ambre. Les fibules sont fixées sur la poitrine et dans la partie inférieure de la ceinture. De nombreux anneaux de bronze concentriques recouvrent entièrement les avant-bras. De couvre-peau, une sorte de cape, et des chevilliers sont réalisés en feuilles de bronze et enrichis de pédentifs, de fibules et de boucles fixées sur les sandales. Vous voyez ici très différents vêtements qu'on a trouvés dans les tombes de l'Énotrie. Vous voyez la ceinture qui est en tissu avec des perles, des fils d'or et d'ambre. Aussi, vous avez le couvre-jambes et aussi des colliers d'ambre, les bracelets et les autres bijoux. Parfois, un diadème d'or complète la coiffure. Dans d'autres cas, des perles tubulaires en bronze forment des coiffes tronco-coniques élaborées, comme ça, dont on trouve l'écho dans les pédentifs en ambre représentant des têtes féminines. Durant le VIe siècle, les colliers d'ambre restent une marque de prestige pour les femmes de communauté italique. Les récentes découvertes des nécropoles à Pella et à Ege, en Macédoine, documentent que cette coutume est également réservée à des tombes de femmes de haut rang et que les bijoux d'ambre viennent aussi en Macédoine d'ateliers de la zone étrusque de la plaine du Pô. Mais, en outre, à Ege, la capitale du royaume macédonien, dans la nécropole réservée aux femmes de la famille royale et au plus haut niveau, la tombe qui est maintenant exposée au musée du Louvre, vous voyez que la défunte a entièrement recouvert d'or. Ces découvertes de Macédoine ouvrent de nouvelles voies pour la recherche, pour mieux comprendre les similitudes et les différences dans l'expression des formes de royauté dans la Méditerranée à l'époque archaïque. Jusqu'à la découverte de la Macédoine, on croyait que c'était un coutume qui les réservait seulement aux femmes indigènes de l'Italie méridionale et de l'Énotrie en particulier. Mais la découverte macédoine nous pose le problème de comprendre quel est le rapport et quel est le modèle qu'on utilise pour les femmes au VIe siècle qui sont l'expression de l'aristocratie de la Méditerranée. À côté des reconstitutions tirées des contextes de fouilles, en Italie méridionale, des stèles trouvées exclusivement dans la zone de la Donia, ce sont des cipes qui signalent les tombes et représentent le défunt, nous offrent un autre témoignage de la somptuosité du coutume féminin indigène. Aussi, dans la décoration des stèles, l'abondance des ornements, la richesse des ceintures hautes qui soutiennent des capes élaborées et garnies de pédentifs et médaillons, les broderies qui bordent l'habit aux épaules, sur les côtés et dans la partie inférieure, révèlent la magnificence de la toilette. Cet aspect permet de saisir l'importance que revêtait le tissage des costumes de cérémonie de cette période, vraisemblablement réalisé par la maîtresse de l'Oikos, comme nous le raconte déjà Homère en parlant de la très célèbre tapisserie de Pénélope. Vous regardez ici, je vous pose un petit particulier du pédentif qui est sur la stèle à gauche, qui est tout à fait semblable au pédentif qui était réellement trouvé dans la tombe féminine. Ce type d'habillement, riche en métaux précieux et ornements, est réservé au cours du 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ aux femmes les plus éminentes des communautés indigènes, notamment celle de la zone de Notri en Italie méridionale. C'était la zone dans l'arrière-pays de la côte ionienne qui gravite autour des colonies grecques de Sybaris et Métaponte. Ce n'est que dans des circonstances particulières de la vie communautaire que certaines femmes portaient cet habit de cérémonie, à commencer probablement dans celle de la cérémonie nuptiale qui ratifiait leur changement de statut social. L'habillement qui accompagne la femme dans son dernier voyage est un costume de rituel, de fête, d'officialité. Celui-ci établit l'identité individuelle de la femme, montrant en même temps et sans équivoque possible son appartenance à un groupe social bien défini, dont elle est partie intégrante. Les joyaux surabondants qui le complètent sont vraisemblablement des dons qui attestent la sacralité du rite de passage qui ont défini son statut. Une telle tenue vestimentaire est étrangère à la culture de la polis. Aussi, l'idée des positions féminines du milieu du VIe siècle avant notre ère, trouvées dans la nécropole urbaine de Métaponte, sont-elles si importantes? Les femmes sont habillées à la manière indigène, coiffées d'un précieux couvre-chef cylindrique en feuilles d'argent doré, décorées d'une série de chevaux et de gingembre nu. Vous regardez les particuliers. Exécutées selon la technique de repoussé et application de rosettes plastiques. Les vêtements sont fixés aux épaules par de grosses épingles en argent dont l'extrémité en forme de disque est revêtue d'une fine feuille d'or. L'hypothèse qu'il s'agissait de femmes ayant des fonctions sacerdotales étayée par les nombreuses représentations de porteurs d'offrandes en terre cuite déposées dans les sanctuaires de la ville, dont les grands fibules à disque, typiques du costume traditionnel des femmes des Notri, sont la caractéristique. Je crois que ces sépultures métapontines sont le témoignage concret de l'intégration des colonnes grecques dans les communautés indigènes grâce aux relations matrimoniales. Rapport esquissé dans les légendes de fondation que nous ont transmis les auteurs antiques, qui attribuaient une valeur particulière à l'union entre l'Oïkistès, le chef de l'expédition coloniale, et la fille du roi local. Donc la femme se révèle être un instrument d'alliance pour la consolidation des fonctions coloniales et par certains côtés la garante de l'acquisition d'espaces territoriaux. Néanmoins, ces documents liés au rituel funéraire restent épisodiques dans le cadre de nos connaissances des nécropoles des polis coloniales, où le mobilier est empreint d'une grande sobriété et est généralement constitué de récipients d'huile et d'essences parfumées. En revanche, comme l'illustre la frise du grand temple de l'Héraion à l'embouchure du sel, dans les villes grecques, la représentation d'un choros de jeunes filles dans la décoration des temples est récurrente. L'image du choros, ça c'est à l'Héraion du sel, mais on a tout à fait semblable de Sybaris et de Rhegion aussi. Il semblerait que dans la polis, l'accent sur la préparation des jeunes filles dans le cadre des pratiques rituelles définies par la sacralité du culte se déplace et, selon une attitude mentale typique de la culture grecque, on tente d'en transférer le message sur un plan mythique. Ce n'est pas un hasard si, à Posidonia, un métope, aujourd'hui au musée de Naples, et la sculpture en terre cuite, c'était à gauche. Et en terre cuite polychrome, mis au jour dans le sanctuaire nord de la colonie achéenne, représentant Europe transportée par le taureau, assise en Amazon, sont également attestés dans la seconde moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ. L'ère iconographie est comparable aux sculptures appartenant à des édifices sacrés de l'époque archaïque, comme la Métopie ou Trésor de Sicyon du sanctuaire d'Apollon à Delphes, celle de Selinonte où le taureau monte des dauphins, et une autre provenant de Pergame, conservée à Berlin. Pour dégager la spécificité du thème de l'envelement d'Europe, il est nécessaire de se reporter aux sources littéraires. C'est chez Homère, dans l'Iliade 14, 321-322, que nous trouvons la plus ancienne mention de l'union de Zeus et d'Europe, à l'intérieur d'un véritable catalogue des amours consommés par le maître de l'Olympe. D'autres informations proviennent des commentateurs des œuvres homériques et des témoignages littéraires beaucoup plus tardifs, qui rapportent des traditions archaïques attribuées au catalogue des femmes d'Hésiode et à Bacchylide. Ce mythe semble gagner en popularité dans le monde grec occidental à compter du 7e siècle avant notre ère, avec le poème de Stésichore d'Himère intitulé Européa. Bien que la tradition littéraire soit hétérogène et susceptible de nombreuses variantes, qu'il s'agisse de la localisation ou du déroulement de l'épisode mythique, ou encore de la définition généalogique de l'héroïne, le fond de la légende est toujours le même. Europe est enlevée par Zeus qui l'aborde sous la forme d'un taureau. Paradigme d'accouplement qui, à travers l'union d'une femme et d'une divinité, donne naissance à des lignées nobles. L'image d'Europe sur le taureau est utilisée encore dans le 5e siècle avant Jésus-Christ sur le couvercle d'un petit vase en marbre. C'est à gauche. C'est la prise d'un couvercle d'un pyxide qu'on a trouvé dans une tombe de Métaponte. Et à droite, sur un miroir en bronze fait à Locri. Mais encore, le mythe d'Europe, pour comprendre le mythe d'Europe, extraordinaire est la scène peinte par Astéas sur un cratère. C'était un céramiste, un peintre qui travaille à Pestum à la moitié du 4e siècle. Et il a peint l'image d'Europe sur le taureau. C'est un cratère. Et encore une fois, je viens à vous souligner l'importance de cette représentation à la moitié du 4e siècle, dans la même période dans laquelle le thème est utilisé dans une mosaïque qui orne le sol d'une chambre dans le palais royal de Gué. C'était une mosaïque qui était découverte tout à fait récemment et c'était de la même organisation de la présentation. Dans l'image de cette cratère, vous voyez Europe sur le taureau et on a à gauche Zeus, Crète, Hermès, on a les noms sur le personnage, et à droite Aphrodite et Adonis. C'était un mariage régal. C'était très intéressant qu'on a la même image dans le palais royal de Gué, que maintenant les archéologues grecs ont date à la moitié du 4e siècle et on a tous les témoignages qu'il a été fait par Philippe. On peut supposer que dans le courant du 4e siècle, le mythe de l'élèvement d'Europe est utilisé non seulement pour créer une identité généalogique noble, mais aussi pour projeter des liaisons qui dépassent les simples ambitions territoriales. Et c'était un autre aspect de la recherche qu'il faut pousser, je crois, dans les années qui viennent. Dans la société lucanienne de Pestum, au IVe siècle, comme dans celle de la Campanie, dans les sociétés politiquement structurées, les femmes de l'aristocratie jouissent d'une position privilégiée, bien que toujours complémentaire de celle des hommes. Elles sont les gardiennes du patrimoine domestique et assurent la continuité de la lignée. En effet, outre les vases liés au rituel, on trouve dans le mobilier féminin des bijoux, mais aussi dans celui des femmes de haut rang, l'Idri et le Lebes, qui est le vase nuptial par excellence. C'est à ces femmes qui sont réservées les tombes peintes. Cependant, ce sont les scènes de retour du guerrier, à l'honneur du représentant masculin le plus insigne du groupe familial à la tête de la communauté, qui révèlent le rôle central de la femme mariée. La tombe à chambre de la Contrada Vecchia di Agropoli, située sur le territoire de Pestum, vous voyez à nous la photo de la fouille et comment on a trouvé la tombe, qui avait des dépositions. À gauche, la déposition de l'homme, et à droite, les objets qui étaient à côté de la déposition de la femme. À gauche, le cratère, les plats de poisson, la kylix, et à droite, l'idri, le lebes, la lecane, et aussi, surtout, des objets en terre cuite représentant les fruits de la terre. Mais dans cette tombe, c'est surtout le programme pictural de la paroisse centrale qui nous renvoie l'image idéale. En présentant les vases de libation dans le même, le skiphos et l'oenokoe, la femme devient l'instrument d'un rite de passage destiné à purifier le soldat des souillures de la guerre et à le réinsérer dans la famille et dans la communauté politique. En grand nombre dans la Pestum lucanienne, ces scènes de libation sont peintes, c'est ça, des autres exemplaires. À gauche, la dame avec l'oenokoe et la pater dans ce cas, et à droite, l'homme qui revient de la bataille sur son cheval avec les armes et avec le trophée qu'il a pris au ennemi. Et notre exemplaire de Pestum, la peinture, ce n'est pas en très bonne condition. Et vous voyez en bas le dessin qui vous montre toujours la même image. Mais cette image du retour de l'image du guerrier qui revient dans la communauté, on l'a, autre qu'à Pestum, dans certains tombes de Capoue, de Nola et Sarno. Vous avez une tombe récemment découverte à Sarno. Les conditions ne sont pas très, très bonnes, mais nous montre, c'était une image qu'il a adoptée. Mais si à Pestum nous avons 15 tombes avec l'image du retour de guerrier, À Nola, nous avons 3 images. À Sarno, c'est la première image qu'on a découverte. Et ça nous montre quelle est la complexité des sociétés où les chefs adoptent cette image. Ces pratiques, bien attestées dans les sociétés guerrières archaïques, trouvent un pendant dans divers récits légendaires comme celui des Horaces et des Curiaces à Rome. Après sa victoire sur les Curiaces, Horace rentre à Rome chargé de son triple trophée. Sa sœur, fiancée à l'un des Curiaces, dénoue ses cheveux et pleure son bien-aimé mort. La fureur d'Horace, le meurtre de sa sœur, prend tout leur relief si l'on réalise que le pleure interrompt le rite de la victoire en lui substituant les signes opposés du rituel funéraire. En comparant chacun des scènes qui célèbrent le retour du guerrier victorieux, on perçoit nettement la volonté des exécutants de faire en sorte que l'on reconnaisse les personnages par le biais du vêtement. C'est très clair. On a aussi des images dans la campagne sur des vases à figure rouge. Et toujours, c'est la même image. Si on voit clairement qu'à travers les armes, on distingue très nettement les hommes de Pestum à gauche, dans les hommes de Nola ou de Capou à droite, c'est clair qu'on a la volonté de faire reconnaître les personnages à travers une identité locale. Mais aussi, comme pour les hommes, nous pouvons reconnaître les femmes qui accueillent les guerrières vainqueurs par la tenue vestimentaire. Nous reconnaissons dans la diversité de ces tenues vestimentaires la spécificité des costumes traditionnels féminins de chacun des communautés. À Pestum, la femme mariée porte un long habit blanc ou rouge, garni au centre, dans la partie antérieure, d'une bande verticale. Elle porte des sandales noires et sur la tête un long voile blanc retenu par un diadème rouge ou une coiffe en turban garni d'un court voile rouge. Vous avez trois exemplaires de femmes à Pestum. À Nola, le costume féminin est constitué d'une longue robe flottante à plis verticaux, traversée de des larges bandes brodées, d'une courte cape carrée de couleur pourpre, ornée dans sa partie inférieure d'une large bande brodée de motifs en méandre et de glandes qui pendent, auquel s'ajoute un voile blanc et court, retenu par une grosse épingle, mais qui ne recouvre pas la coiffure. À Sarno, à gauche et à droite, vous avez une autre image, c'est plus clair. Les habits de couleur vive, jaune ou rouge, sont complétés par un dessus blanc, descendant jusqu'au genou, par la petite cape comme à Nola, la cape carrée, de la même couleur que l'habit, et d'un couvre-chef élaboré. Elle a sous la tête une sorte de tambourin posé sur le haut de la tête, d'où part un court voile blanc. Dans ce contexte culturel, à Nola comme à Sarno, les bijoux sont toujours surabondants, notamment les bracelets et les colliers, peints en jaune pour indiquer qu'ils sont en or. Les femmes de Pestum n'ont pas des objets en or. La spécification de la tenue vestimentaire laisse pressentir particulière de la tête, voilà, la valeur consolidée que ces images transmettent. La femme qui porte cette tenue dans les cérémonies publiques exprime son appartenance à une communauté bien définie et en même temps souligne son rôle dans le groupe social qui gouverne cette communauté. Au milieu du IVe siècle, la grande innovation tient sans aucun doute à la création d'un programme iconographique réservé exclusivement au ton féminin. Il s'agit toujours de femmes de rang élevé et on les commémore à Capoue, à Nola, à Cume, à Pestum, dans des scènes de Zinéché, en les représentant principalement assises, en train de défiler la laine ou un miroir à la main, toujours assistée par une servante, debout devant elle. Le message est clair. Le domaine propre à la femme est l'oikos, la famille au sens de l'espace défini par les liens de parenté avec le mari, les parents et les enfants, et par les rapports avec la domesticité. Cette image d'épouse sage et de patron bienveillante semble correspondre à la conception pythagoricienne de la figure et du rôle de la femme sur lesquels Claudia Montepaone a attiré l'attention dans son livre Lo spazio del margine. De nombreuses sources qui nous sont parvenues, nous savons que dans le système pythagoricien, de l'arrivée de Pythagore à Crotone, à la fin du VIe siècle, il existait un espace féminin. Il me semble important de souligner que dans l'enseignement pythagoricien, l'attention envers un espace féminin est contextuelle à l'espace accordé aux communautés indigènes, parmi lesquelles les Lucaniennes dans les figures de l'ère Basileis et Dionastei, avait une position privilégiée. Arésas, le cinquième successeur de Pythagore, est un homme lucanien. Jean Blic, néo-pythagoricien du IVe siècle de notre ère, nous a transmis une liste de 17 femmes pythagoriciennes les plus fameuses de l'Antiquité. Bon nombre d'elles étaient originaires de la Grande Grèce. Timica, nous savons le nom, Philtis et Mia de Croton, Abroteleia et Psyrode de Tarente, Tyrsénis de Sybaris, les Lucaniennes Okello et Echello, et la plus célèbre en toutes, Théano, l'épouse de Brontinos de Métaponte. D'autres sources disent que Théano était l'épouse, la fille ou la disciple de Pythagore lui-même, ou l'épouse d'Aristée, successeur de Pythagore à la direction de l'école pythagoricienne, ou encore la mère de Mnésarque, fils de Pythagore et successeur d'Aristée. Ça pour dire l'importance que Théano il avait entre l'école philosophique pythagoricienne. Dans certains documents fragmentaires attribués à Fentide et à Périxion, qui sont des pythagoriciennes, on a écrit « Il faut que la femme soit bonne et honnête, mais sans ses vertus, elle ne pourra jamais l'être. Les activités spécifiques à l'homme sont celles de commander les milices, de gouverner la cité, d'haranguer le peuple. Celles spécifiques à la femme sont de veiller sur la maison, d'y demeurer, d'attendre de servir son mari. Mais sont du devoir du couple l'exercice du courage, de la justice, de la sagesse. Il faut éduquer la femme afin qu'elle sache ce qu'est la sagesse et grâce à quel biais ce bien peut lui appartenir. La femme sage et avisée fera prospérer non seulement son mari, mais également ses enfants, ses parents, ses serviteurs et sa maison dans son ensemble, de même que ses biens, ses amis, ses citoyennes et les étrangères qui se réunissent dans sa maison. Le parcours idéal d'une maîtresse de maison, sage et vertueuse, est raconté sur les deux petites plaques transversales d'une tombe à caisse de Pestum, Platon 47 Andriolo. Sur le fronton triangulaire du panneau ouest, à gauche, la femme est représentée de son vivant en train de filer la laine avec sa servante. Cette scène est placée au-dessus de la prothésis. La défunte reçoit l'hommage funèbre, habillée et sur un baldaquin, entourée d'objets caractéristiques de l'univers féminin, la ciste, le miroir, le porte-parfum. À côté du lit funéraire, des femmes en habit rouge amarante et tête nue, se portant la main au front, accomplissent les gestes du plaire rituel. À son rite d'un flûte joué par un homme barbu au pied du lit. Derrière lui, des jeunes, probablement les enfants de la défunte. Le récit se poursuit sur la bande inférieure de l'autre plaque, à la votre droite, qui représente un cortège conduit par un homme qui traîne un bœuf en le tenant par les cornes et qui brandit un couteau sacrificiel. Une femme et un enfant, entièrement voilés, le suivent. La première porte sur la tête une petite table pleine de pain, la seconde un grand pater avec des œufs et des grenades disposées en pyramide. Une pleureuse clôt la théorie des personnages qui, chargée des dons à dégâts au rang social de la défunte, l'accompagne vers le dernier passage, peint sur le registre supérieur de la même plaque où la femme est représentée, s'apprenant à monter sur la barque, conduite par un génie ailé qui lui tend la main. Ce programme iconographique est tout unique et la représentation idéale de la femme et de ses vertus mises en lumière dans le mariage, la procréation des enfants, le soin de la famille et des biens domestiques. Elle est célébrée dans les honneurs funèbres, selon un usage propre au monde italique du IVe siècle, mais aussi, dans la même période, nous avons dans la société romaine. D'après les historiens Tite Livre et Plutarque, c'est après la prise de Rome par les Gaulois dans les années 390, avant notre ère, que Camille aurait récompensé les matrones qui avaient fait don de leurs bijoux pour soutenir l'effort de guerre, en leur conférant le droit à l'élogium, jusqu'alors réservé seulement aux hommes. L'univers domestique sert de contrepoint au monde masculin, qui, par le triomphe militaire, se projette dans une dimension héroïque qui nie la mort. Mais si la peinture de la tombe 47 de Pestum fixe le statut très élevé de la femme déposée dans la tombe à travers son exposition à la déploration funèbre dans un baldaquin placé à l'extérieur de la maison, à travers les offrandes proportionnelles au rôle qu'il a de fond occupé dans la communauté des vivants, la décoration des autres sépultures féminines de Pestum à la même période met en scène uniquement les séquences de toute la cérémonie. La cérémonie qui est à l'intérieur de la maison, qui est réservée seulement à les femmes. La toilette funèbre, la prothèse pour la déploration confiée aux femmes de la famille, famille qui accomplissent les gestes emphatiques de la douleur, la préparation de la mort, les personnages qui arrivent pour les honneurs qu'on fait à la femme, et aussi toujours sont les femmes qui font toutes les cérémonies funèbres à l'intérieur de la femme. Seulement la femme de la tombe 47, c'est au niveau le plus haut, elle est exposée à l'extérieur de la maison, et là, elle a une cérémonie funèbre qui est tout à fait différente des autres femmes. Cette image sont caractéristiques de la communauté lucanienne de Pestum. Des images similaires ne sont pas présentes sur les peintures funéraires de la Campanie. Et ça, c'est une chose très différente. Campanie, nous avons la femme qui est dans la scène du retour du guerrier, mais jamais nous n'avons pas de scènes comme ça, que pour moi, ils sont empruntés à une tradition pythagoricienne plus forte que nous avons des traces en Campanie. En Campanie, nous avons seulement cette image qui est documentée sur un vase à figures rouges qui a été publiée par Schauenburg. Ce vase est dans une collection privée et malheureusement, nous n'avons pas l'origine. Mais ça, c'est le seul qui est très proche à la documentation des tombes de Pestum, et il est très semblable à cette peinture plus tardive où la femme mort dans la prothèse, c'est très grand et c'était l'expression de son importance dans la cérémonie funèbre. À Pestum encore, on a une autre représentation. Le programme décoratif de la tombe 61 développe des concepts plus innovateurs encore. Nous sommes dans la seconde moitié du IVe siècle. Ces peintures magnifient le rôle de l'inhumé et une femme, parce qu'on a les mobiliers qui sont tout à fait propres d'une femme, mais la femme, elle est magnifiée à travers une série d'images qui figure les hommes de sa famille dans un cortège organisé par classe d'âge. Un jeune homme à gauche, un adulte armé, un vieillard à manteau assis sur un char tiré par des mules. La femme de cette tombe, donc, est commémorée dans sa fonction de garante de la continuité de la lignée du groupe familial, qui, grâce à l'harmonieuse succession des générations, participe au bon gouvernement de la communauté politique. Cette peinture se charge d'une valeur politique en déroulant sur les parois de la tombe l'image d'une organisation sociale idéale. À différence du monde lucanien de Pestum, les peintures funéraires de la deuxième moitié du IVe siècle dans le monde campanien, influencé par les Samnites, notamment à Qum et à Capoue, ne soulignent pas les vertus de la femme, mais la représentant à sa toilette, devant un minoir, ou hiératiquement assise sur un trône, une fleur ou un oiseau à la main. Il semble que dans ce milieu, on veuille donner une orientation rituelle à la représentation de la femme, en l'assimilant à une divinité, ou du moins en la plaçant en vertu de son statut dans un espace d'intemporalité. Cette opinion est confortée par la scène peinte dans une tombe à chambre récemment découverte à Qum. Dans le grand espace triangulaire de la paroi centrale, est représenté un couple s'adonnant au plaisir du symposium. L'homme, étendu sur une cline, tient entre ses mains une patère en métal doré. Et sur une table basse sont présentés des pains, des fruits et des gâteaux. Une femme vêtue à la mode campanienne, avec la typique cape carrée de couleur rouge, est assise près de lui. Elle tient une grenade dans chacun de ses mains. Au second plan, se profile une jeune femme qui porte une onokoe. Elle a sur la tête un chapeau qui nous fait la rapproche à une femme étrusque. On a donc attribué un sens rituel à la scène du symposium qui exprime au plus haut point l'identité gentiliste locale que se projette dans l'au-delà selon un schéma dont on trouve un parallèle dans les tombes étrusques les plus connues de la même période, mais aussi nous trouvons la même image dans les tombes de Kazanlak et de Rochavachua en Thrace. C'était une image qui dérive d'un modèle que je crois que c'était un modèle qui était élaboré dans la seconde moitié du IVe siècle dans le royaume de Macédoine. Qum et Capoue sont très proches de ce modèle. Les femmes de Pestum restent liées à une tradition culturelle qui les plus informées de la philosophie pythagoricienne. À Qum, la projection d'un au-delà idéal est renforcée, vous voyez, je vous montre, sur les parois de toit, ici et ici. Vous voyez, voilà. Cette idée de ritualité est renforcée par les figures évanescentes des jouets de flûte et des danseuses, à peine esquissées d'un trait sur les voûtes à double pente. Au tournant du IVe et XIIIe siècle avant notre ère, à la veille de la romanisation de l'Italie méridionale, les images codifient un langage, fruit d'un mélange de traditions culturelles différentes. L'andais, généralement plus répandu, est réservé à la décoration des vases déposés comme mobilier dans les tombes féminins, propose des scènes des initiés et des mythes qui métaphoriquement laisse entendre une adhésion individuelle à des croyances salvatrices. Les vases que vous voyez, ils sont propres de la Apulie. On a quelques vases comme ça dans les tombes de la côte tyrrhénienne, des villes de la côte tyrrhénienne, mais l'image du Cynécée s'est réservée surtout dans les tombes de la Apulie qui n'a pas de tombe peinte avec des saints figurés. Mais un exemplaire de la présentation des mythes qui laissent entendre une adhésion individuelle à des croyances salvatrices est représentée avec cet amphore avec la représentation de la naissance d'Aphrodite. Mais nous avons aussi des autres images de mythes qui nous font comprendre qu'on a des formes individuelles qui passent à travers les images peintes sur les vases à figures rouges. Mais, sous la côte tyrrhénienne encore, on a des formes de manifestation idéale tout à fait particulières. Et notre filon, qui est propre de cette terre, tend à souligner de façon réitérée le rôle de la femme au sein d'un groupe familial dont les hommes sont destinés à recouvrir des fonctions publiques. Cette expression idéologique se manifeste clairement dans les peintures de Tom de Spinazzo qui appartiennent au même groupe familial. Les peintures, ça c'est la nécropole, sont consacrées à la célébration d'une aristocratie qui a tendance à exalter les membres de sa propre famille comme pour reproduire une généalogie. Le répertoire des scènes est répétitif, centré sur la rencontre-salutation de deux personnages sur la paroi centrale située en face de l'entrée. Ils sont suivis d'un cortège qui se déploie sur les panneaux latéraux. L'analyse des restes osseux des individus inhumés trouvés dans cette tombe a permis de vérifier le sexe du défunt et donc d'avoir la certitude qu'il correspondait toujours au personnage représenté à gauche sur la paroi centrale de la chambre. La tombe 1 est celle d'une femme. Sur la paroi centrale est représentée l'arrivée d'une matrone dans l'au-delà. Voilà le geste de la rencontre. Voilà la matrone. Elle est voilée et enveloppée dans un manteau. Elle est accueillie par un personnage masculin plus âgé, comme l'indique la barbe et les cheveux blancs. Ce dernier est vêtu de façon identique au personnage adulte des autres qui sont peints sur les autres tombes, mais semble être le plus éminent de la hiérarchie, car au premier plan, il arbore à la nourrière gauche un anneau muni d'un sceau que je propose d'assimiler à l'Annulus Aureus des Romains. Ce personnage a le statut de chevalier, comme l'indique la présence du cheval dont les reins sont tenus par un tout jeune garçon qui, sur la paroi droite, semble le guider. Sur la paroi opposée, défile le cortège qui accompagne la défunte. Il se compose d'un homme d'âge mûr, peut-être son fils, de servante et d'un cheval, portant en selle un petit chien maltais que les sources littéraires désignent comme le chien de l'aristocratie chez les Grecs et les Romains. Voilà le particulier de la servante qui a les cheveux coupés, comme tous les servants, qui sont tout à fait différents des coiffeurs des dames. Dans la tombe, à côté de cette tombe, le personnage inhumé est un homme adulte, l'homme à gauche. Sur la paroi principale, face à l'entrée, se détachent des personnages masculins. Celui de gauche est suivi d'un cortège qui démarre de la paroi à gauche de la porte. Un jeune homme qui tient sur le pas un grand bouclier circulaire suspendu à des lances. Avance derrière des énormes chevaux qui occupent toute la paroi longue. Le premier cheval transporte un bas sur lequel est assis un petit chien maltais. Un tout jeune garçon, lui aussi, porteur de lances et de boucliers, tient par la bride le second cheval prêt à être monté. Il est représenté sous la paroi centrale, derrière le jeune homme faisant face à un personnage plus âgé. À l'extrémité droite, on voit une jeune femme qui fait partie de la scène qui se déroule sous la paroi de droite de la chambre funéraire. C'est un servant. Elle porte une idrie, vase qui sert à contenir de l'eau pour la purification. Elle suit une matrone qui porte une fiale à relief et en face à un cavalier qui avance triomphant sur un cheval harnaché de manière somptueuse. C'est grâce à ces peintures que l'on sait si combien, au début du IIIe siècle, les aristocraties de Pestum, profondément hellénisées, ont le même comportement des élites campaniennes et romaines. Les visages des personnages masculins, comme ceux des femmes de ces tombes, différents les uns des autres, semblent se présenter comme des portraits. Et comme on a des portraits des hommes, c'est ça tout à fait la nouveauté, on a des réels portraits des femmes. L'un de l'autre, ils sont caractérisés par status et par âge. Dans le panthéon familial, il y a donc une place officielle pour les femmes au début du IIIe siècle, dans la mesure où elles vivent leur rôle empreinte de cosmos et d'harmonie, de façon cohérente avec le prestige et les vertus publiques des hommes de sa famille. Et l'image de la femme qui est sur la tombe de l'homme le plus important de la famille, pour le Corsus Honorum, c'est déjà une image de matrone romaine. Et on passe dans la tradition italique qui l'a formée de la culture grecque, on passe à la tradition romaine. Et ça, je crois que c'était l'histoire des femmes qui reste toujours très importante, s'ils sont très importants à l'intérieur de la famille qui a créé la dignité du lignage. Merci.